Dans cette release de CPU, deux micros, une salle de classe, un sujet juridique et géographique, et un examen en fin d'année. L'équipe aujourd'hui, Benjamin Bénifet et Dascritch, nous diffusons une conférence faite lors du Capitole du Libre en novembre 2017, et j'espère que tout le monde a mis son portable sur silencieux. Ouais, parce que normalement, vous n'y avez pas droit en examen. Allez, c'est parti.
CPU carré petit utile.
Bonjour à tous et bienvenue dans une release un petit peu particulière de CPU. Nous vous avons déjà parlé du Capitole du Libre dans cette émission et plus d'une fois. Malheureusement, l'année où nous avions reçu les organisateurs, l'attentat du Bataclan une semaine avant a failli supprimer l'événement. Mais résilience du Libre oblige, l'équipe bénévole a su l'organiser malgré tout. Cette année, il a eu lieu et il fut, comme chaque année, un véritable succès critique pour le public. Et pour tout le monde comme pour les spécialistes. Le calendrier de cette année a une date butoir, celle du vendredi 25 mai 2018, la mise en application dans toute l'Europe du Règlement général sur la protection des données, aussi dit GDPR ou en français RGPD. Un texte de loi qui redéfinit d'ailleurs complètement la gestion de la vie privée dans l'espace numérique. Et comme toutes les entreprises sont concernées, on en entend énormément parler, mais souvent n'importe comment. J'ai la chance d'avoir comme ami Benjamin Bénifet, juriste spécialisé dans le domaine d'informatique. Enfin, pour lui, je ne sais pas si c'est une chance. Hein. Et comme moi, il est très agacé par toutes les bêtises qu'on entend au sujet du RGPD depuis des mois. D'ailleurs, deux jours avant le Capitole du Libre, a eu lieu à Paris un colloque professionnel, et je mets des guillemets à professionnel, sur le RGPD. Le flyer distribué méritait franchement tous les colibés et était assez affligeant. Pour rire donc, j'ai proposé à Benjamin de proposer une conférence au Capitole du Libre sur le thème « Démystifions le RGPD » et il se trouve qu'on a été pris. Notre idée était de reprendre toutes les déclarations de soi-disant experts dans les médias et de rigoler dessus. Mais notre délai d'écriture était un peu court. Résultat, le seul moment où nous pûmes en parler avec Benjamin fut pendant le Salon du Vin à Toulouse et comme nous n'avions pas pris de notes, on a tout oublié le lendemain. Alors, je suis sûr qu'on avait des idées beaucoup plus drôles, mais nous savions déjà la forme que nous voulions. Sonder le public pour connaître les dégâts des idées fausses et en rire. Et comme nous n'eûmes le temps que pour une répétition, il fut impossible de caler proprement notre numéro de claquette à la fin. La salle était pleine, nous n'avons pu répondre à toutes les questions, mais surtout, nous avons eu beaucoup de personnes qui nous disent avoir regretté de n'avoir pu y assister. C'est sûrement pour nous flatter, mais quand même, comme nous avons eu beaucoup de demandes pour diffuser notre conférence, et un petit peu pressé aussi par un article dans la Gazette du Midi de cette semaine, comme à l'heure actuelle, les organisateurs du Capitole du Libre et les équipes de N7 Vidéo n'ont pas eu le temps de commencer le dérochage, nous vous proposons un enregistrement d'une qualité certes moyenne, mais qui permet de comprendre le propos. Vous aurez très prochainement la captation vidéo avec un bien meilleur son de notre enregistrement et nous mettrons bien évidemment le lien en ligne. Il est très probable aussi que courant décembre ou janvier, nous fassions d'autres présentations. Je vous recommande d'aller sur la page de l'émission, disponible sur le site cpu.pm, où nous vous proposons notre support projeté. Pour passer à chaque étape, il suffit d'appuyer sur la touche flèche droite. Ah oui, pendant que le public s'installait et remplissait la salle, je rappelais, puisque nous étions à l'ENSET, une école d'ingénieurs, que l'examen de fin d'année sera le 25 mai 2018 et que la note sera éliminatoire.
CPU carré petit utile.
La conférence Démystifions le RGPD, faite au Capitole du Libre avec Benjamin Bénifet.
On est là pour démystifier le RGPD et vite, parce que tout simplement, dans 188 jours, il entre en action. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la date de l'examen qui sera donc le 25 mai. Et on va tous y passer. Bonjour, je suis Dascritch, je suis développeur, je fais aussi une émission sur Radio FMR qui s'appelle CPU, et accessoirement, je fais des fois des trucs avec d'autres comparses qu'on appelle des crypto-parties.
Bonjour à tous, merci d'être venu. Je m'appelle Benjamin Benifei, je suis consultant en protection des données. Et donc, je faisais de la protection de la vie privée avant que ça soit cool, avant qu'on parle du RGPD à tout bout de champ.
Avant 78
ouais, oui. Pas avant 78.
Alors, comme on n'a pas le temps, on va faire un petit peu un résumé des épisodes précédents pour ceux qui n'étaient pas là, bien évidemment. D'abord, fichier des citoyens, c'est quelque chose qui est relativement vieux. Je vous rappelle, par exemple, que l'état civil est l'une des causes qui fait que Jésus s'est retrouvé dans une mangeoire, puisque Joseph était appelé à faire son recensement en Galilée. Richelieu lui-même fichait ses opposants. À partir du 19e, on commence à faire des élections censitaires, donc il fallait justifier qu'on avait un certain revenu pour voter, et les pauvres, de toute façon, on n'a pas besoin. Et en 1914, comme on allait lancer une guerre, on a fait une grande réforme des finances de l'État, et on a créé l'impôt sur la fortune, ce qui voulait dire, bien évidemment, qu'il fallait que l'on sache, en fait, ce que gagne chacun. En 1941, à l'époque, l'Allemagne avait un petit peu écrasé la France. Comment ça, c'est le cas maintenant? Non, pas du tout. C'est pas la même chose. Donc, l'exercice de l'armée a été suspendu. L'armée était déjà, à l'époque, une conscription. Et on demande à un haut fonctionnaire de préparer le retour de l'armée au cas où, on ne sait jamais. Enfin, ils font ça un petit peu dans leur coin sans prévenir le reste du gouvernement de Vichy. Cette personne s'appelle René Camille et va créer en fait un premier fichage de l'ensemble des citoyens français. Le but du jeu est de recenser tous les hommes valides qui seraient susceptibles de reconstituer une armée. Et pour cela, il va créer en fait un numéro d'identifiant unique pour tous les Français, qui va être constitué de la date de l'année de naissance, le mois de naissance, le département, un numéro à 3 chiffres qui représente la commune, et 3 chiffres qui est le placement en fait dans le registre des naissances. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, le numéro INSEE. Mais il manquait un premier chiffre. Et comme ils se sont dit, bon, là, ça va peut-être un peu se voir, donc le gouvernement de Vichy leur a dit, mais c'est super, mais pourquoi il n'y a pas de place mais c'est par foyer. Non, vraiment par individu. Donc, ils ont rajouté un premier chiffre où on a en 1 les hommes et en 2 les femmes. Donc, maintenant, vous savez que c'est non seulement sexiste, mais c'est aussi pour dire, allez, messieurs, partez à la bataille. Mais est-ce que vous savez qu'en fait, ce premier chiffre avait d'autres numéros en usage? Ainsi, en 3 et en 4, on y mettait les indigènes des colonies. En 5 et en 6, les juifs des colonies qui, attention, les juifs de France étaient dans la classification 1 et 2. En 5 et en 6, c'est pour une question purement juridique, c'est parce que les juifs des colonies comptaient moins que les Français et colons, mais comptaient plus que les indigènes de nos colonies. C'est beau, la vie. Et 7 et 8 pour les étrangers. Bref, on va bien évidemment garder le numéro INSEE par la suite, qui nous sert encore actuellement, mais le ministère de l'Intérieur, en 1972, va se dire « mais c'est bien pratique quand même d'avoir toutes ces infos sur les Français. » Mais on va peut-être, grâce à la puissance du plan informatique, on va accumuler plus d'informations sur les Français. Par exemple, on va prendre non seulement leur numéro de sécurité sociale, mais on va le croiser avec les fiches de police, puisqu'on en a plein. Ah, mais on va y mettre aussi des impôts, après tout, pourquoi pas. Et puisque toutes les banques sont nationalisées, elles vont nous donner tous leurs fichiers qu'ils ont sur chacun des Français là-dessus, et puis les assurances aussi derrière, et tout ça. Bref, évidemment, cela pose quand même un problème pour les développeurs qui sont derrière et qui doivent construire ce fichier fabuleusement nommé Safari. La chasse aux Français est ouverte. Je vous rappelle qu'à l'époque, quand même, on faisait des ratonnades. C'est dire si c'était très mal choisi. Et donc, bien évidemment, ces développeurs ne sont pas exactement d'accord, puisque l'information sur ce fichier Safari n'est absolument pas publique. On se le fait, là aussi, dans notre petit coin tranquille de notre ministère. Et donc, des informaticiens vont écrire un courrier au journal Le Monde. Le Monde va publier en 1974 non seulement leur tribune, mais aussi une enquête sur ce fichier Safari et les implications que cela a derrière. Cela va faire un véritable tollé. Bref, cela va aller jusque devant le Parlement. Il va avoir un gros débat juridique là-dessus. Et on arrive à la loi dite Informatique et Liberté.
Donc la loi Informatique et Liberté, donc de 78, on vous a mis le tout premier article qui indique que l'informatique doit être au service du citoyen. C'était vraiment assez puissant de commencer une loi en 78 par ces termes. C'est quelque chose qui est toujours d'actualité aujourd'hui, puisque vous savez qu'il y a tout plein de réflexions sur la gouvernementalité algorithmique, le pouvoir des algos. Donc cet article reste plus que jamais d'actualité.
Mais voilà, cet article, cette loi en fait date de 1978, mais elle sera quand même révisée au fur et à mesure, et puis étendue par le jeu des autres lois. Si vous vous intéressez un petit peu aux amendements et à comment se constitue une loi en France, vous saurez que c'est que des commits sur GitHub, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, on trouve le code civil sur GitHub, c'est bien qu'il y ait une raison. Et d'ailleurs, elle passera carrément au niveau européen, puisque ce sera plus ou moins réunifié, parce que les autres pays ne nous ont pas attendus, peut-être vous le savez pas, mais dans la constitution du Portugal, il y a un article de la constitution qui précise très clairement ce que l'État n'a pas le droit de récolter comme information et de centraliser comme information sur les citoyens. Et surtout en croisement de fichiers, ce qui était très précoce. Et c'est aussi le cas pour les autres pays, bien évidemment. Corollaire de cette loi, on crée une haute autorité qui s'appelle la CNIL, qui est la Commission Informatique et Liberté, qui a donc principalement pour mission d'abord de contrôler et de censurer les fichiers de l'État, mais aussi de contrôler, c'est-à-dire que les entreprises doivent faire une déclaration auprès de la CNIL quand elles créent un fichier, et éventuellement de vérifier l'usage qui est en effet de ce fichier et de le censurer. Sous le prix d'une belle amende, ça on le verra tout à l'heure. Et cela instaure un droit au particulier à la rectification des informations, attention, des informations inexactes. Pas l'occasion pour dire que on est haut chevalier de je ne sais quoi, ou titulaire de la rosace, de la Légion quelconque.
J'ai bien cherché dans ma discothèque, j'ai pas trouvé un morceau qui s'appelle La loi de Bruxelles. Mais par contre, j'ai trouvé La loi de Los Angeles, donc le générique d'une série des années 80, comme ça, bien cheesy. Vous écoutez Radio FMR, c'est Carré Petit Utile, l'émission CPU. Et nous vous diffusons donc la conférence Démystifions le RGPD faite au Capitole du Libre en 2017 avec Benjamin Bénifet.
Malheureusement, cette loi quand même montre ses limites, et ainsi que donc sa directive européenne qui en découle, tout simplement parce que entre-temps, est arrivé Internet, on va faire des achats sur Internet, puis on va commencer à avoir une industrie qui va arriver, qui va être l'industrie de la publicité, donc on va commencer à récolter les informations, à faire du profilage sur les gens, et qui plus est, ce sont des entités qui ne sont pas soumises aux lois européennes, puisque bien souvent, elles sont placées en dehors de l'Europe, du moins pour les plus grands acteurs de ce côté-là. Et aussi, en 2001, on a un triste événement, le 11 septembre. Non, on peut croire qu'on parle que de Toulouse. Mais qui va instaurer pas mal de lois qui attendaient sur une étagère un événement triste, grave. Mais oh, ça tombe bien, j'ai une loi antiterroriste. Et là-dessus, on va retirer à la CNIL le droit de sévir sur et de censurer en fait les fichiers de l'État. À tel point que, il y avait, je crois, à l'époque, il y avait quelque chose comme 70 fichiers illégaux de police. Tout d'un coup, ils sont devenus légaux, puisque la CNIL n'avait plus le droit de rien dire dessus. Parallèlement, en 2003, la Californie instaure, en fait, une nouvelle obligation. C'est une loi qui, en fait, oblige les entreprises qui entreposent des données personnelles sur des individus de prévenir ces individus si ces données ont fuité à cause d'un piratage, d'une malveillance, ou tout simplement, d'un administrateur système qui aurait mieux fait quand même de faire son boulot. Cette loi va être transposée au fur et à mesure dans différents États des États-Unis. Ça va même Barack Obama va faire un discours, d'ailleurs, si je me trompe, devant le Congrès, en 2015. Ça va devenir en fait une loi fédérale. Il faut savoir que cette loi, en fait, va aussi inspirer le législateur européen. Il se trouve qu'en 2002, en Europe, on avait une directive e-privacy sur donc la gestion de la vie privée dans le domaine sur Internet. Et c'est la révision de 2009 de cette e-privacy qui va justement apporter plus ou moins le concept de obligation d'informer en cas de fuite d'une donnée personnelle. Mince.
Oui, c'est vrai. Il y a peut-être un petit souci là.
Oh mince. Vous savez ce qu'elle introduit aussi, la directive de 2009 ? Elle introduit bien évidemment le grand bandeau que là on va vous mettre de suite. En poursuivant l'écoute de cette conférence, vous acceptez nos CGV et l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés aux centres d'intérêt qui vous permettent l'utilisation des boutons de partage sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres, demandez Simon sur la mailing list Orgade Capitole du Libre. C'est fait. 2012. On a un dépoussiérage qui est fait à l'initiative d'un groupe constitué aussi bien des écologistes allemands et aussi d'une élue du Parti Pirate auprès du Parlement européen pour revoir justement et unifier l'ensemble de ces directives, puisque les directives ne sont pas toutes uniformes, pas toutes transposées sur le domaine national.
Les lois des États membres de l'Union européenne sont plutôt disparates. Et donc, le législateur européen s'est dit qu'il fallait peut-être harmoniser tout cela. C'est pour ça qu'on a commencé à parler dès 2012 d'une nouvelle norme en matière de protection de la vie privée des citoyens européens. Et le règlement général est ce qui a abouti. Donc, personnellement, j'ai lu 4 ou 5 versions. Daskridge va vous dire pourquoi ça s'est précipité vers la fin, pourquoi tous les députés européens et les instances européennes se sont dépêchés de...
Je vais même pas vous le dire, je vais vous dire, il y a un excellent documentaire qui est passé sur Arte, qui a suivi l'écriture de cette loi, où on voit les représentants des partis populaires, donc des partis de droite, le rapporteur qui est face à une immense pile de papier, et donc député parti de droite qui lui dit « Écoutez, vous voyez tout ça, c'est tous nos amendements. Vous le jetez, là, parce qu'après ce qu'il vient de nous dire Snowden avant-hier. » Donc, cela va permettre en fait une mise à jour réelle de l'ensemble des pratiques sur la gestion de la vie privée. Cela va aussi limiter les tentatives de contrôle voulues par certains gouvernants des États européens, je ne pense pas que de la France, mais par exemple aussi de la Pologne, de la République tchèque, de l'Angleterre. Oui, ils font encore partie de l'Europe. Bref, this is RGPD.
Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que avant, on avait une directive européenne en matière de protection des données. La directive doit être transposée, c'est-à-dire le droit national doit s'adapter. Là, le règlement est d'application uniforme sur tout l'espace de l'Union européenne. Et les États ont une marge de manœuvre très réduite pour adapter leur droit national à ce règlement et à ses principes.
Même si elle existe, hein, si vous lisez, elle existe. Bon, on va rester quand même sur le terme RGPD, ce sera plus simple pour nous tous. Mais le grand défi, ça va être... Dès maintenant, en fait, on est en plein dedans et la plupart des gens ne s'en aperçoivent absolument pas. Le grand défi, ça va être de se préparer à ce qu'elle soit appliquée. Et pour cela, donc, Paul-Olivier Gilbert, qui est le président de l'association, en fait, c'est une asso qui regroupe les CIL de France, donc les correspondants informatique et liberté, il a dit à ce sujet, pas mal d'opportunistes incompétents proposent de l'accompagnement RGPD. Pourquoi ?
US 3, Doing a Crime, c'est extrait de l'album Broadway and 50 Seconds. Action packed like Mac 10, Junior and his friend, not a pot to piss, a starving brothers on a mission. 2:30, William plan to rob the Tobu, GW Bridge, got the weapon concealed, nothing to lose. They choose to break the rules at all costs, stick them in Jersey, hit the other side to New York, black and red leather suits and black biker boots, one.
got the gun, the other one controls the motorbike. Adrenaline pumping, dreams of cash. Anybody try to stop him getting lead in their face, believe that. Black pack on his back, ready for loot to fill. What a thrill, they gon' be robbing that booth for real. Doing a crime, shaking the dice, taking a chance. You might get away or get locked for life. Doing a crime, shaking the dice, taking a chance. You might get away or just lose your life. Racing down Route 4, Junior pushing the bike, Ike toting the map. No time to be scared. When we on him, pointed at him, tell him to fill the bag, cause we not getting high. By this time it's 5:30, rush hour is thick, so they weave through the cars, get to the tow booth quick as a chick. He put it to a head and said it's a stick, fill the bag, big bills, put the ones in my hands, we out. Hot, with the cops on their trail, dipping and swerving, almost crashed right into a rail, sweating like hell. They not even trying to see jail, cause they pulled the sting and robbed the tow booth for real. Doing a crime, shaking the dice, taking a chance. You might get away or get locked for life. Doing a crime, shaking the dice, taking a chance. You might get away or just lose your life. In the air, all the cars hit the brakes, so they good. Get out and get some. The cops look dumb, cause they couldn't get through. People block the path. So Junior and Ike hit the west side fast. They got their gear stashed somewhere near the train. Smooth getaway, ready to take the loot to the brain. Change the clothes, ditch the bike. Ike tripped in the trash. Keep it moving, gotta get the loot to the lab. Leave it heavy, move it quickly. Situation sticky, the whole mission was ill. They got away smooth for real. Doing a crime, shaking the dice, taking a chance. You might get away or get locked for life. Doing a crime, shaking the dice, taking a chance. You might get away or just lose your life. Doing a crime, shaking the dice, taking a chance. You might get away or get locked for life. Doing a crime, shaking the dice.
Vous écoutez Radio FMR. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous vous diffusons la conférence Démystifions le RGPD faite au Capitole du Libre avec Benjamin Bénifet.
Donc on va juste poser 2-3 bases, les définitions, pour qu'on parle tous de la même chose. Une donnée à caractère personnel, qu'est-ce que c'est ? Vous avez les journalistes ou les écrits de vulgarisation qui vous parlent très souvent de données personnelles. Le terme idoine, le terme qu'on trouve dans les normes, c'est données à caractère personnel. Et tout simplement, les données à caractère personnel, c'est une donnée qui permet d'identifier indirectement ou directement une personne physique. On parle ensuite, désolé pour tout ce blabla un peu juridique, mais il faut qu'on pose les bases. Il y a ensuite un deuxième acteur, outre la personne concernée dont on va traiter les données, dont on va collecter les données, dont on va croiser les données, on a le responsable de traitement. Le responsable de traitement, c'est celui qui pose les finalités et moyens du traitement de données à caractère personnel, et le traitement de données à caractère personnel, c'est très schématiquement toute opération sur des données à caractère personnel. de la collecte à la suppression. Et tout au long de la vie de ces données, dès lors qu'on les consulte, dès lors qu'on y a accès, dès lors qu'on les transfère, dès lors qu'on les chiffre, tout ça, ce sont des traitements de données à caractère personnel. Donc vraiment, dès lors qu'il y a une opération sur les données, même de la création du fichier jusqu'à sa destruction, ce sont des traitements. Et tous ces traitements entrent dans le cadre des diverses normes, et notamment donc du RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données.
Et maintenant, vous êtes là, on va vous faire participer, on va faire un quiz. Alors n'hésitez pas à répondre, c'est un QCM, hein, relativement simple. Et dites-vous bien que d'autres parlent plus du RGPD que nous, et en savent moins que vous. Et on le voit tous les jours, et encore ce matin. Bref, on y va. Première question, jusqu'ici, il est impossible de se faire retirer d'une liste de démarchage publicitaire. Je vais vous demander de lever la main ceux qui pensent que oui. Ça veut dire qu'il y en a qui ont tenté, peut-être. Ceux qui pensent que non, c'est pas impossible. Ouais. Et ceux qui pensent qu'ils ne sont pas sûrs. Ouais, c'est mitigé, hein. Mais ça reste une grande majorité de non. Et ça tombe bien.
Oui, le RGPD, le Règlement Général, est souvent présenté par divers prestataires comme une révolution. En fait, non, ce n'est juste que la continuité des normes qu'on avait en vigueur, une harmonisation. Et effectivement, les normes en vigueur prévoyaient le fait de pouvoir faire supprimer ces données dès lors qu'elles n'étaient plus pertinentes. Il y a des conditions pour accéder aux données qui vous concernent, les données qui sont traitées et qui vous concernent. Mais vous pouviez avant le 25 mai 2018 faire supprimer les données, notamment vous concernant, pour un démarchage publicitaire dès lors que vous n'êtes plus intéressé.
Jusqu'ici, la CNIL a très peu sévi. Alors, qui pense que oui ? Et ça fait bien 40% de la salle. Qui pense que non ? La CNIL a très bien sévi jusqu'ici ? Zéro. Et qui pense que ne se prononce pas ? Ouais, 30%.
La CNIL, Commission nationale de l'informatique et liberté, qui existe depuis 78, est une autorité administrative indépendante. Et en fait, elle a sévi. Elle fait des contrôles concernant des fichiers d'opérateurs publics comme d'entreprises privées. Et elle a sévi. Le problème, c'est qu'elle fait avec les moyens qu'elle a. La CNIL, c'est, je crois, 250 personnes. L'équivalent de la CNIL, l'AICO, l'équivalent britannique, à 500 personnes. Donc on voit beaucoup plus l'action quotidienne de l'autorité de protection britannique. Mais le problème, c'est que la CNIL a mis des amendes. La CNIL a contrôlé. La CNIL a publié des mises en demeure. Vous souvenez tous du petit bandeau qu'il y avait sur Google.fr tout un week-end, qui a fait tomber le site de la CNIL parce que tout le monde cliquait sur le lien qu'il y avait en bas de page. Donc voilà.
Et aussi une chose, hein, par rapport à l'AICO, ouais. La CNIL, il y a un plateau téléphonique. On peut les appeler sur les questions. Alors que l'AICO, tout est sur le net. La contrepartie, c'est que le site de l'AICO est superbe.
Ouais, c'est vrai. Et on parle souvent, j'ai vu votre question, on parle souvent des sanctions pécuniaires, c'est-à-dire des amendes pour parler du RGPD. Vous avez pas mal de boîtes qui vous font de la pub en disant « Faites attention, mettez-vous en conformité parce que vous risquez jusqu'à, oui, 20, c'est vrai, c'est dans les textes, jusqu'à 20 millions d'euros d'amende ou 4% du chiffre d'affaires mondial, je précise. » Oui, ça fait peur, mais personnellement, je serais responsable de traitement, je serais une entreprise pas en conformité. Moi, j'aurais plus peur qu'on me file une autre sanction, par exemple la sanction d'arrêter le traitement. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus collecter les données ou vous ne pouvez plus utiliser les données. Imaginez si, par exemple, très schématiquement, on empêchait à Google de collecter des données sur tous les citoyens européens. Personnellement, je pense que ça leur ferait beaucoup plus de peine que avoir une amende certes qui paraît exorbitante. J'ai une question, je ne sais pas si on les prend au fur et à mesure ou...
on va les prendre après parce qu'on a vraiment beaucoup de points et d'accord. Tout va dépendre du temps qu'on aura, donc je suis vraiment désolé. Une adresse IP, une adresse MAC ne sont pas des données à caractère personnel. Qu'est-ce qui pense que oui, ça n'est pas des données à caractère personnel? Une fois, deux fois, trois fois. Ouais, on va dire 5%. Non, c'est une donnée à caractère personnel. 80%. Et qui sait pas, bon, c'est une forme. Hein.
Donc ce qu'il faut voir, c'est que je reviens à la définition que j'ai posée il y a 3 ou 4 slides. Dès lors que ça permet d'identifier une personne physique, une personne précise, c'est une donnée à caractère personnel. En l'espèce, on a eu des décisions de justice au plus haut niveau puisqu'on a eu des décisions de la CJUE, Cour de justice de l'Union européenne. En fait, par exemple, vous êtes un fournisseur d'accès Internet, vous savez très bien lequel de vos abonnés se trouve derrière quelle adresse IP à un instant donné. Donc, dès lors, c'est une donnée à caractère personnel.
Le RGPD est illisible, il est écrit « In English Technocrat from Brussels », comme les autres règlements européens. Qui pense que oui, c'est illisible ? Non, il est lisible. Ah, 50-60%, ouais, pas mal. Et ils se prononcent pas parce qu'ils n'ont pas lu. 20%, d'accord.
Il y a beaucoup
non, mais il faut être honnête. Hein. Moi, j'ai trouvé beaucoup plus illisible que ça, je vous rassure.
Donc, le règlement général est bien entendu traduit dans toutes les langues de l'Union européenne. Certes, il est un peu volumineux, mais la data est partout. On rebat les oreilles sur ça. Donc, il était important quand même de préciser le régime de tous ces traitements de données à caractère personnel. Et oui, effectivement, c'est plus lisible que du Marc Lévy.
Et en plus, je vais vous dire une chose, c'est que moi-même, je ne suis pas franchement un spécialiste, mais je me le suis fadé en un week-end, et c'est que de la bonne pratique à l'intérieur. C'est d'une lisibilité, franchement, c'était l'été, donc j'étais auprès de la piscine. Les deux me tentaient autant. Honnêtement, rarement j'ai vu un règlement européen aussi lisible. Plongez-vous dedans. Et pas « Non, c'est pas la peine de lire, c'est illisible. » On ne citera personne, on ne fera pas du name and shame. Non, parce qu'il y a des spécialistes RGPD qui disent aux entreprises « Non, mais vous perdez pas de temps à essayer de le lire. » Et après, on se rend compte qu'eux-mêmes ne l'avaient pas lu. Donc, voilà. Le RGPD a été créé pour que les GAFAM prennent encore plus de nos données personnelles. Qui pense que oui ? Ok. Qui pense que non ? Ouais, 80%. Et qui pense que... 10%. Parce qu'on pensait que vous avez dit...
Ça
pensais que vous avez lu du Laurent Alexandre, un truc comme ça. Mince !
On avait dit pas de name shaming.
Bon, c'est bien. Bref, vous avez bien compris qu'en fait, le RGPD a été motivé effectivement sur la concentration en silo des données. Et en fait, il est vraiment passé comme une lettre à la poste, justement par la révélation Snowden, par le fait que les services de renseignement pompent d'autant plus facilement la donnée que tout est dans certains silos. Le RGPD a été écrit par les GAFAM pour empêcher les entreprises européennes d'être compétitives.
Ça, c'est quelque chose qu'on entend.
On l'entend. Hein. Ce qu'on vous écrit, en fait, c'est souvent des trucs qu'on entend. Et dans les médias, des fois, dans les très gros médias. Donc, qui pense que oui, ça a été écrit par les GAFAM ? Quand on connaît le budget que Google met pour aller voir les eurodéputés, je ne serais pas surpris. Hein. Non. Hein, ouais. On est à 80% et 5%. Au moins, soyons honnêtes.
Donc là, on vous a mis le titre complet du règlement. Donc on parle beaucoup de RGPD ou GDPR. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ce règlement a deux objectifs, deux finalités principales. La première, c'est la protection des données à caractère personnel des individus situés sur l'espace de l'Union européenne. Et la deuxième finalité, c'est vraiment de favoriser la libre circulation de ces données dès lors que cette circulation est faite de manière encadrée, dès lors qu'elle est respectueuse de la vie privée des individus dont on traite les données. C'est-à-dire dès lors qu'on les a informés que ces données sont traitées, il y a toute une batterie de principes, dès lors qu'ils savent où vont ces données, ce qu'on va faire avec, etc., etc. D'autant plus lorsque vous faites au sein de l'Union européenne, cette libre circulation des données est acquise. Par contre, plus largement au niveau, à l'échelle mondiale, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a diverses conditions, notamment le fait d'adhérer à des principes protecteurs, le fait d'avoir une loi nationale dans le pays où on envoie les données qui est protectrice également des données à caractère personnel. Donc il faut pas voir le règlement comme quelque chose qui va empêcher les entreprises d'être compétitives, qui va les empêcher de faire du business. Au contraire, on pense que ce processus d'amélioration continue de la protection de la vie privée, c'est quelque chose qui pourrait être un avantage compétitif des entreprises européennes, comme américaines, etc., comme on va le voir dans quelques
semaines. Et comme on l'a dit, c'est des bonnes pratiques, notamment il y a tout ce qui est gestion documentaire. Si vous êtes intéressé à comment tout le cadre juridique sur la GED, c'est ni plus ni moins que les transpositions des normes ISO. Voilà. Les entreprises américaines sont bien mieux préparées que les entreprises européennes. Qui pense que oui ? 15%. Qui pense que non ? Elles sont moins bien préparées. 35%, hein, c'est à vue de pif. Et à vue de pif d'ailleurs, qui pense que pif paf, même pas. 30% pensent que non, c'est pas. Eh ben, je vais vous surprendre.
Ouais, il y a pas mal d'études qui montrent que les grosses entreprises américaines, notamment ce qu'on appelle les GAFAM, sont mieux préparées pour être conformes au 25 mai 2018 aux règles du règlement général européen, enfin du règlement général sur la protection des données. Oui, effectivement, il y a pas mal d'entreprises françaises qui n'étaient déjà pas conformes au texte de 78, remanié, etc. Mais là, pour le règlement général, ça devient vraiment pressant de se mettre en conformité.
Et à vrai dire, c'est un cabinet d'avocats qui, je crois, est basé à Chicago, qui a la plus grande masse d'informations sur, d'abord, la différence entre le droit américain et le droit européen, mais aussi sur les transpositions de chaque pays, ce que cela change dans chaque pays. C'est quand même affolant de voir qu'un cabinet d'avocats américains fournisse une masse de documentation monstrueuse sur leur site, à tel point qu'on aurait plus envie de dire à des grosses boîtes européennes, allez les voir. C'est terrifiant.
Ou plutôt, allez les voir, mais mettez-vous vous-même en conformité. Quoi. Enfin,
clairement. Le Privacy Shield va rester. Alors,
je vais expliquer très brièvement ce qu'est le Privacy Shield. Donc, comme je vous ai dit, il y a des mécanismes qui permettent d'assurer une protection des données à caractère personnel lors des transferts internationaux. Notamment, il y a le Privacy Shield. Le Privacy Shield, ce sont des entreprises américaines qui peuvent adhérer à certains principes qui sont censés apporter un niveau de protection, un niveau de protection adéquat pour les données qui transiteraient, par exemple, de la France vers les États-Unis. Le problème, c'est que le Privacy Shield est la suite du Safe Harbor, le Safe Harbor qui a été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'un étudiant autrichien, Maximilian Schrems, que vous connaissez peut-être, a réussi à faire invalider la décision de la Commission européenne qui instituait donc le Safe Harbor, parce que les garanties sur les données personnelles des citoyens européens n'étaient pas là dans le Safe Harbor. Et Maximilian Schrems est d'accord pour dire que le Privacy Shield, c'est la même histoire.
Bon, qui pense que le Privacy Shield va rester ? 2%, d'accord. Non. Ouais. Ouais, 15% et ne se prononce pas. Je pense que là-dessus, il y a une belle indécision. Juste pour ça, alors, vous avez déjà une idée de pronostic là, pour qui va être président du mouvement En Marche ? Bon, honnêtement...
Ouais, on espère bien que non, parce que c'est vrai que le Privacy Shield, c'est pas mal d'auto-certification. Certes, on a fait entrer des tiers pour assurer la conformité des entreprises américaines, mais c'est pas génial. C'est pas le niveau de protection qu'on attend au sein de l'Union européenne. Donc, on pense que la CJUE, la Cour de justice de l'Union, va invalider ce mécanisme. Et je vous rappelle que ça avait été un énorme chaos quand le Safe Harbor avait lui-même été invalidé. On avait plein d'entreprises européennes qui démarchaient leurs sous-traitants en leur disant « Ah, vous avez des données personnelles concernant nos salariés ou nos clients. Qu'est-ce que vous faites pour si vous les envoyez aux États-Unis parce que le Safe Harbor est tombé ?» Et c'était un joyeux bordel parce qu'il n'y avait plus de mécanisme, en fait. Enfin, il y avait d'autres mécanismes, mais le mécanisme principal qui permettait l'envoi de données entre l'Europe et entre l'Union européenne
qui
et
autorisé.
Les États-Unis, qui autorisait, autorisait ce transfert, ce mécanisme principal n'était plus en vigueur, il a été invalidé. Et on pense que ça va être pareil pour le Privacy Shield d'ici quelques années.
Deux fichiers dont il y a une copie systématiquement aux États-Unis alors que ce sont les données purement européennes. SWIFT, le système de traitement des données, des paiements par carte bleue, tout paiement par carte bancaire que l'on fait en Europe, même si ça reste en Europe, et une copie qui va aux États-Unis, c'est pour la lutte contre, pas contre le terrorisme, mais contre les narcotrafiquants. Un autre, c'est le PNR, c'est le fichier des passagers qui n'est pas encore totalement unifié et qui comporte une masse d'infos sur vous absolument stupéfiante. Et qu'il y a aussi, mais alors cette fois-ci pour les lois antiterroristes, les Américains ont exigé des Européens que ce fichier soit hébergé chez eux, sinon ils faisaient une fouille pratiquement au corps de tous ceux qui venaient par les compagnies aériennes européennes. Sympa.
Il nous reste 5 minutes.
Ok. Si une entreprise met ses données sur AWS, elle est en tort avec le, la RGPD.
Avec un T en tort.
Non, je t'avais dit. Bon, qui pense que héberger ses données sur Amazon Web Service nous met en tort sur le, vis-à-vis du RGPD ? Qui pense que non ? Ouais, c'est bien. Et qui pense que... bon, ok. Bon, alors d'abord, c'est le, parce que c'est le règlement. Hein ? T'exagères. Et ensuite, ben... Comme on l'a dit, ils ont des très bons cabinets d'avocats, ils sont très bien conseillés, et qui plus est, Amazon Web Services, ils ont des zones en Europe, mais ça va même plus loin, puisque par exemple, Microsoft, suite à la révélation des écoutes d'Angela Merkel, Microsoft Allemagne, leur solution Office qu'ils présentent aux entreprises, c'est plus Microsoft qui opère. Maintenant, c'est Deutsche Telekom. Et c'est juste un accord de licence. Ils sont allés devant, d'ailleurs, une commission de défense et du Sénat américain qui n'était pas content. Mais comment ça ? Mais comment ça se fait et tout ? Fait, ah non, c'est juste un accord commercial. Il n'y a aucun lien. On ne peut pas vous filer les infos.
Ouais, quand vous avez recours à un prestataire, notamment de cloud, vous avez toute la liste de ses certifications, toute la liste des méthodologies qu'il utilise, notamment pour être conforme à diverses normes et dont le futur RGPD, enfin le RGPD. Donc vraiment, bien sûr, il faut avoir confiance en ces certifications, mais allez jeter un coup d'œil dessus. C'est Amazon Web Services, sans faire la pub. Pour ce prestataire, vous avez toute une flopée de mesures qui sont mises en œuvre et qui sont, selon Amazon, compliant, conformes avec le RGPD.
Alors que certains centres d'appel outsourcés par des opérateurs français, au secours. Si un sous-traitant est en faute, l'entreprise cliente est aussi en faute. Qui pense que oui ? 50%, qui pense que... Ça me rend tout d'un coup, qui pense que non, on est passé à 80%. Non, 2%, qui pense que... 10%. Eh ben oui.
Oui, ne sous-traitez pas vos erreurs, c'est ce qu'on a bien voulu mettre en exergue sur cette slide. C'était déjà le cas avant le GDPR, mais là, le règlement général... Alourdit la responsabilité du sous-traitant et également du responsable de traitement, puisque il faut s'assurer de la bonne conformité de l'un et de l'autre avant de sous-traiter.
Bonjour, je suis un gros opérateur du gaz. Vous avez eu mon numéro comment ? Ah, je peux pas vous le dire, mais on l'a acheté, donc on y est pour rien. Rendez-vous le 25. Si j'achète un téléphone chinois pas cher sur Amazon, le constructeur n'est pas soumis au RGPD, puisqu'il est basé en Chine, bien évidemment, et il peut continuer à récupérer un max de données sur moi grâce à ses spyware. Alors, qui pense que oui ? 15%. Qui pense que non ? 70%. Qui pense qu'il ne sait pas, et qui ne lit même pas d'ailleurs les conditions générales de son téléphone ? 15%.
Ouais, alors c'est difficile et facile à la fois. Ce qu'il faut voir, c'est que le champ d'application j'ai vu une minute, il nous reste. Le champ d'application du règlement général.
On n'aura pas le temps.
Concerne en fait les données des citoyens européens, mais également de toute personne située dans l'espace de l'Union européenne. Donc le champ est vraiment très large. Théoriquement, on pourra poursuivre ce fabricant chinois qui ajoutera ses propres conditions générales d'utilisation en plus de celles de l'OS, par exemple Android. Et toute la question, ça va être de pouvoir traîner en justice, si on veut, ou de faire une opération de contrôle de la CNIL, par exemple, contre ce constructeur chinois.
On est tous les deux chez OnePlus. Si votre site est mal conçu, mal sécurisé, cette fois-ci, c'est pas mon cul. Tu penses que oui ? 45% qui pensent que non. Zéro et qui ne sait pas. Ouais, 30%. Alors c'est déjà le cas.
C'est déjà le cas. En fait, vous aviez une obligation de sécurité qui perdure dans le GDPR, dans le règlement général. Mais ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup de prestataires parlent de
300 000 euros d'amende jusque-là. Et qu'est-ce que c'est ?
Oui, mais maintenant,
100 mètres carrés en centre-ville.
Maintenant, ça va être une très grosse amende. On vous a dit que dans les sanctions, il y avait vraiment l'obligation de cesser tout traitement. Et ça, pour, de notre point de vue, c'est aussi important que, d'en parler que des amendes.
Attention, c'est 4% du chiffre d'affaires global pour, même pour une filiale, donc c'est l'ensemble du groupe qui prend, mais pour une asso, c'est aussi la même règle qui s'applique, sachant que c'est la moins favorable des deux, donc c'est au moins 2 millions d'euros hein, quand même. Hein,
y a un ça sera proportionnel. Mais...
Ça va faire mal. Non, mais fais les paniquer, sinon je vends pas ta Presta. Quoi. On a 3 jours pour prévenir nos clients que nous avons eu une brèche dans, dans nos données qui est concernée. Qui pense que oui ? 15% qui pense que non ? 10% qui ne se prononce pas ? On va dire le reste. Alors,
très schématiquement, lorsque vous êtes un responsable de traitement dans le cadre du règlement général, vous êtes obligé de prévenir l'autorité compétente, en France la CNIL, si vous avez subi une fuite de données. Donc une fuite, qu'elle soit malhonnête ou non, que ce soit un dysfonctionnement technique qui fait fuiter des données ou non. Et ce qu'il faut voir, c'est que s'il y a un risque élevé sur la vie privée des personnes concernées, donc par exemple de vos clients, vous devez également les prévenir, leur notifier qu'il y a eu une fuite des données les concernant.
Si quelqu'un le demande, devons-nous lui envoyer toutes les données qu'on a sur lui dans un format dit utilisable ? Qui pense que oui ? 90% qui pensent que non ? 10% qui n'osent même pas y songer ? Il y en a un qui a déjà essayé de faire un export sur MySQL.
Ça c'est une réelle avancée du règlement général, c'est le droit à la portabilité.
Ça existait déjà.
Ça n'existait pas.
Ah si, en cas de service.
Là vraiment, c'est le règlement général pose un principe comme quoi vous pouvez, en tant que personne concernée, demander l'intégralité des données que vous avez confiées à un prestataire qui devra vous les rendre dans un format interopérable pour que vous puissiez soit les réinternaliser chez vous, par exemple monter votre propre serveur web en récupérant, votre propre serveur mail en récupérant tous vos mails, ou le passer à un autre prestataire de service de mail.
Au hasard, si vous passez sous Diaspora. Si j'ouvre un compte bancaire, je pourrais exiger que mon nom n'apparaisse pas dans leurs informatiques. J'aurais donc un compte anonyme. Qui pense que oui ? Je fais un flop sur cette question. Qui pense que non ? Ouais, pratiquement 95% et ils ne se prononcent pas. Ouais, bon. J'aurais pu mettre n'importe quel nom. Hein.
On peut pas
Mais lui, il s'est retiré, lui. Il n'est pas animateur chez C8.
On ne peut pas demander la suppression de données qui sont, par exemple, nécessaires à l'exécution d'un contrat ou nécessaires pour une relation entre le responsable de traitement et son client, la personne concernée.
Un vendeur d'électroménager n'est pas obligé d'effacer mon nom, même si je l'exige. Vous savez, on n'arrête pas de parler du droit à l'effacement. Alors, d'après vous, oui, il n'est pas obligé d'effacer toutes les données me concernant. D'accord, j'ai 10% qui pensent que non. 60% qui ne se posent même pas la question parce qu'il n'achète pas d'électroménager, il vit dans un meublé. 15%.
Là, on a deux intérêts différents qui sont mis en balance. D'un côté, la protection de la vie privée et de l'autre, la protection du consommateur. Effectivement, dans le cas, s'il y avait un rappel qui devait être effectué parce qu'un dysfonctionnement qui pourrait être dangereux pour la personne, eh bien, on ne va pas pouvoir demander aussi facilement la suppression des données qui nous concernent parce qu'on a acheté, par exemple, un frigo ou je ne sais quoi.
Mais figurez-vous que moi, je suis dans une boîte de vendeurs d'électroménagers. On a obligation de rappeler s'il y a vraiment un danger, un frigo qui devient fou, ce que vous voulez, quoi. Ouais, ouais. Un DPO, donc c'est le nouveau rôle, c'est le Data Privacy Officer, c'est comme un SEAL, mais en anglais, l'intitulé du poste sur LinkedIn est plus chic. Qui pense que c'est plus chic d'être DPO sur LinkedIn que SEAL ? 10% qui pensent que non, parce que de toute façon vous n'êtes même pas sur LinkedIn, vous êtes sur Viadeo. Et les intitulés sont qu'en français. 15% qui ne sait vraiment pas et se pose pas la question parce qu'il ne veut même pas l'être. D'accord. Ok.
Donc, le DPO, pour faire très rapidement, c'est le délégué à la protection des données. C'est le, je vois qu'il faut terminer, donc je vais faire très court. C'est la succession du CIL, correspondant à l'informatique et liberté, qui était présenté jusque-là comme le chef d'orchestre de la protection des données à caractère personnel dans une entreprise ou dans une administration. Ce qu'il faut voir, c'est que le DPO, le règlement général lui pose des moyens renforcés dans une entreprise ou une administration. Il est obligatoire dans toutes les administrations, il est obligatoire dans pas mal d'entreprises qui traitent de la donnée de manière élevée, etc. Donc on va passer à la question.
Et puis dites-vous bien,
rapidement.
Ouais, dites-vous bien que si vous faites même un fichier Excel, c'est de la donnée personnelle, hein, avec la liste des clients. Et évitez les champs commentaires libres. Le rôle du DPO est celui d'être infusible. Qui pense que oui? Qui pense que non? 20% qui pense que... 20%, ok.
Non, le DPO, ce n'est pas la variable d'ajustement. Il faut voir que le délégué à la protection des données, c'est vraiment la personne qui supervise la protection de la privacy dans une entreprise ou dans une administration. Mais ce n'est pas lui qui est responsable en cas de manquement. C'est le responsable de traitement qui l'est in fine.
La CNIL a vraiment dit qu'il ne ferait pas du zèle dès le 28 mai. Oui, parce que le 25 mai, c'est un vendredi, on ne met pas en prod vendredi. Donc le 28 mai, allez, on y va, on va taper. Alors d'après vous, la CNIL va-t-elle vraiment ne pas faire de zèle dès l'ouverture du RGPD? Qui pense que oui? 15% qui pense que non? 35% et ok.
très rapidement.
Ils n'ont pas revu leur budget.
Ce qu'il faut voir, c'est que la CNIL a dit que la sanction n'était pas ce qu'elle recherchait en priorité. Mais il y a d'autres autorités européennes qui, du coup, elles ont dit que dès le 25 mai, elles engageraient des procédures pour aller chercher ceux qui ne respectent pas le règlement.
Je sais, c'est pas un procédural, mais j'adore la version originelle, celle de 1968, du générique de la série Hawaii Police d'État, alias Hawaii Five-O. Vous êtes sur Radio FMR. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous vous passons la conférence Démystifions, le RGPD, faite au Capitole du Libre en novembre 2017 avec Benjamin Bénifé.
Et alors, le RGPD, ce qui va vraiment vous arriver?
Donc, on a isolé trois grands principes. Ce qu'il faut voir, c'est que, en premier lieu, la protection de la privacy, la protection de la vie privée, c'est vraiment au cœur du règlement général. Si vous êtes une entreprise ou une administration qui suit ces principes, vous protégerez bien la vie privée. Ensuite, le deuxième grand principe, c'est la sécurité. En effet, pas de protection de la vie privée s'il n'y a pas sécurité des données. La sécurité, c'est la sécurité aussi bien informatique, physique, etc., etc. Et la comptabilité. En fait, c'est montrer, c'est avoir la preuve, donner la preuve comme quoi on est conforme, c'est garder les traces de toutes les actions qu'on a mises en œuvre, garder les traces de tous les traitements, enfin faire un inventaire des traitements de données à caractère personnel, un inventaire de tous les flux transfrontières, etc., etc.
Ayez un flux, ayez une documentation, faites même des emails dans les boîtes où vous êtes pour faire du rappel à la loi. C'est tout simple, c'est vraiment une facilité relativement facile. Et en clair, la donnée personnelle, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment à considérer comme une matière radioactive. C'est quelqu'un qui est dans un autre amphi en ce moment, qui fait une autre conf, qui a cette image fabuleuse. Si tu ne sais pas ramasser de la donnée radioactive, tu ne tentes pas de la ramasser. Si tu ne sais pas les stocker, tu ne ramasses pas. Si tu ne sais pas t'en débarrasser, tu ne ramasses pas. C'est simple, s'il n'y a pas un objectif réel vis-à-vis de l'usage des données pour le fonctionnement normal de votre société, eh ben, ne récupérez pas cette donnée personnelle. Si c'est pour essayer de constituer un fichier pour revendre derrière ou pour faire de la retape, oubliez. Merci. Ouais, on va en prendre une, deux peut-être grand max. Oui, monsieur.
Cette question, c'est un site qui, je pense, ne respecte pas le RGPD, c'est Datadog.
Datadog, je serais incapable de le dire et on a déjà fait assez de name and shame, mais je n'en doute pas, monsieur.
À qui appartiennent les données des objets collectés ?
Les données des objets collectés.
Alors, les données n'appartiennent à personne, en fait. On voit souvent dans les journaux la propriété des données, etc., etc. Non, une donnée, ça fait partie d'une personne, ça fait partie de sa sphère, de sa vie privée, donc ça n'appartient à personne. Les données des objets connectés, ça dépend ce que collecte l'objet connecté.
Ah, dans la santé, c'est très particulier, puisqu'il y a une autre loi qui se met en place, c'est-à-dire que les données de santé doivent être collectées que dans un certain nombre de data centers qui sont certifiés, et en France, ils ne sont qu'une vingtaine.
Hein. Sur l'hébergement de données de santé, effectivement, il y a de lourdes normes en France, et ce qu'il faut voir, c'est que le responsable de traitement qui doit assurer la sécurité des données, par exemple, qui doit informer la personne que ces données sont traitées, c'est celui qui fixe les modalités et les moyens de traitement, de collecte, de croisement des données à caractère personnel.
Monsieur.
En santé, la loi stipule réellement que le propriétaire des données de santé, c'est le patient. Le médecin ou l'entité qui reçoit le patient n'est pas propriétaire de ces données.
C'est une loi d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le dossier médical dématérialisé, on ne va pas y venir dessus, c'est très long. Oui, c'est relativement vieux. Monsieur, au fond.
Juste par rapport à tout à l'heure, vous disiez que la CNIL sanctionne les entreprises, pourtant vous avez déposé la main qu'elle n'a qu'un avis consultatif pour elle, ce qu'elle peut sanctionner.
Non,
parce qu'en fait, elle a un avis consultatif sur, par exemple, les textes qui sont soumis au Parlement et qui sont votés par l'Assemblée nationale et le Sénat. Ça, ok, mais bien, il faut séparer de tout ce qui est contrôle et sanction. La CNIL peut aller dans une administration et ou une entreprise et elle peut aller vérifier quelles sont les pratiques vis-à-vis d'un fichier. Par exemple, est-ce que la CAF, au hasard, parce que j'ai le bâtiment en face, est-ce que la CAF... Est-ce que la CAF respecte...
C'est l'autre côté, la CAF.
Ah, c'est l'autre côté, bon, d'accord. C'est la Poste, là. Est-ce que la Poste met bien en œuvre, par exemple, les mesures de sécurité sur les serveurs, etc., etc. Elle peut aller contrôler. Si ce n'est le cas, elle peut sanctionner. D'abord, elle commence par une mise en demeure publique et l'entreprise ou l'administration, très souvent, a la possibilité de se remettre en conformité. Et alors là, elle clôt très souvent la procédure. Si l'entreprise n'a pas mis en œuvre les mesures attendues, alors là, la CNIL peut prononcer une sanction.
Mais en clair, tout ce qui est en rapport avec la police, le renseignement et le militaire, elle ne peut plus rien dire. Voilà. Désolé, merci beaucoup. On aurait vraiment passé plus de temps avec vous et merci. J'espère que ça vous a plu.
C'est la fin de l'enregistrement de la conférence Démystifions le RGPD, faite en novembre 2017 au Capitole du Libre. Je remercie infiniment Benjamin Benifet qui a bien voulu se prêter au jeu de faire une conférence humoristique sur le RGPD, le Capitole du Libre pour l'avoir accepté et tous les bénévoles du Capitole du Libre pour leur accueil et leur investissement dans cet événement où nous sommes très heureux de participer chaque année, pas uniquement pour aller chercher du son, mais aussi pour apprendre, découvrir, savoir et échanger. Et bien évidemment, il faut remercier les experts autoproclamés et opportunistement incompétents qui nous ont inspiré notre présentation. Nous sommes désolés pour eux. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Benjamin Benifet, Chief Duralex Edlex Officer, et d'Ascritch, Chief Claquette Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques du Capitole du Libre, de N7 Vidéo, de L'N7 et de CPU. Et nous remercions infiniment d'ailleurs le public qui était présent. L'intégralité du programme, les extraits, les sources sont disponibles sur le site cpu.pm ainsi que donc le support vidéo qui a été projeté. Vous pouvez commenter et partager, n'hésitez pas, c'est en licence Creative Commons à l'exception des parties musicales. Et donc n'hésitez pas à faire suivre. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et sauf erreur, ce sera une belle programmation musicale. Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi. Nous cédons à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé sur les planches du théâtre. Et pas que des bavards.